Premier sujet ce matin avec Pierre-Yves, Tesla qui nous promet un modèle à 25 000 $ US.
Non seulement 25 000 $ américains, mais autonome. Mm-hmm. Donc, d'ici 3 ans. Évidemment, on connaît le président de Tesla, Elon Musk. On connaît sa façon de faire du marketing. On sait qu'il annonce des choses pour provoquer l'optimisme et ça va. Mais je vais te parler d'un angle marketing intéressant. Là, l'action ce matin est à 400 $ à peu près. Là, il y a eu une grosse montée du titre dans les derniers mois, mais là, disons que ça se stabilise un peu. Mais derrière ça, il y a le marketing. Et Tesla est encore dans la tête de beaucoup de gens, pas juste une voiture électrique, pas juste des véhicules électriques, c'est du luxe. Et donc, si tu fais un modèle si abordable, qui est en concurrence avec le coût des modèles à essence conventionnels, et que c'est abordable, tu viens comme un peu pervertir la marque. Parce que c'est comme si je te dis, t'achèterais-tu une Toyota Camry de 90 000? Tu me dirais, ben là, Pierre-Yves, avant de m'acheter une Camry à 90 000 $, je vais m'acheter une Lexus, qui est la marque de gamme de Toyota, et voilà. Faut séparer des noms, des fois. Au niveau marketing, quand tu veux avoir un haut de gamme et un bas de gamme, des fois, faut faire des noms. Comme par exemple, Volkswagen a fait Audi, Lexus, c'est Toyota. Donc, t'auras pas une Lamborghini à 25 000, faut pas que tu pervertisses le nom. Alors, en ayant, disons, l'optimisme ou le goût d'aller chercher les gens du commun des mortels, tu vas peut-être t'aliéner une partie de ta clientèle actuelle qui dit « Oh, je roule en Tesla, je suis d'une classe différente et j'ai un véhicule de haut de gamme et regarde ma Tesla. » Je me souviens quand la première fois qu'on a vu une Tesla dans la rue, au Québec, on a fait « Wow, c'est spectaculaire, c'est riche, c'est luxueux, c'est distingué. » Là, ton voisin en a une maintenant, c'est plus la même affaire. Alors, si tu vas faire en plus un modèle à 25 000, tu viens un peu pervertir l'image marketing. Donc, c'est un risque qui existe, mais calculé. Donc, on va aller pour le volume. Et quand on regarde les états financiers de Tesla, le dernier trimestre, on se rend compte que oui, il y a 6 milliards de revenus, mais il y a juste 104 millions de profits. Donc, 1,7% de marge nette. Si tu vas bâtir d'ici 3 ans un modèle à 25 000, c'est que tu vas réussir à couper dans les coûts de façon drastique, donc peut-être par deux, et tu vas surtout dire, je vais avoir suffisamment de production de batteries, parce que dans le moment, l'industrie a beau dire, on veut aller vers, mais on dit, on ne peut pas fournir présentement, au niveau de l'industrie totale, pas Tesla, mais de l'industrie, les batteries. Et pendant ce temps-là, Paul, ouais. Au fédéral...
La caisse se vide.
La caisse de dépôt verte se vide. Donc, on avait voulu mettre 300 millions pour 3 ans, mais 80% est déjà sorti. Et on nous dit que 85% de la caisse est consommée au Québec et en Colombie-Britannique. Et c'est quoi le but de cette subvention-là aux voitures fédérales? C'est d'encourager les gens à changer de comportement et acheter une voiture électrique. Alors, est-ce que la subvention est en train de subventionner l'industrie automobile ou est en train de subventionner un comportement adéquat? C'est vraiment la question qu'on doit soulever parce qu'on va arriver à un point d'inflexion, un jour, où on va être en train de dire « Attendez une minute, là, l'industrie se nourrit à même la subvention, on permet à des gens d'acheter des voitures, mais au bout du compte, est-ce que vraiment l'industrie sans la subvention serait très différente? Ce serait des acheteurs différents? Et est-ce que des gens qui n'achèteraient pas la voiture si la subvention n'était pas là? » Donc, présentement, je pense que c'est le cas. Même moi qui sais compter, si tu me donnes 13 000 $ au total au fédéral et au Québec pour acheter une voiture électrique, ça va entrer dans le calcul pas à peu près. Surtout si tu es capable de me fournir un véhicule électrique à 45 000 moins 13 000, on est rendu à 31, 32. Là, tu dis, on est dans des airs ou des sphères qui sont normales. Mais il y a un moment donné qu'il va falloir déterminer à quel moment on va arrêter ce programme-là. Puis à quelle vitesse on va le faire. Est-ce que ça va être d'un coup?
Graduel, oui, c'est ça.
Ben oui, parce que là, à un moment donné, il y a des voitures qui commencent à être abordables. Donc, est-ce qu'on va aussi dire, ben écoutez, là, les constructeurs, c'est bien beau nous faire un beau modèle de base que personne ne veut acheter dans nos critères, comme les modèles à 45 000 sont souvent, on respecte les critères pour la subvention, mais tout le monde veut un modèle un peu plus cher. Mais comme on offre un modèle de base à 45 000, on rentre dans la subvention. Donc, faut aussi commencer à questionner l'industrie automobile et savoir comment ils jouent avec nos règles.
Maintenant, épargner 10 % de son revenu, est-ce que oui. ça a de l'allure, pas d'allure? Est-ce que ça s'applique à tout le monde?
Bon, écoute, c'est la règle du pouce, d'ailleurs. Desjardins, un outil d'épargne, puis on nous dit, écoutez, là, une règle du pouce, là, normalement, vous avez 50 % pour des dépenses fixes, comme le loyer, l'électricité, 30 % pour les dépenses variables, comme l'épicerie, puis les achats de vêtements, 10 % pour l'épargne, puis 10 % pour le remboursement de dette. Et là, quand les gens se mettent à épargner, ils disent, ben là, on me dit, c'est épargné 10 %. J'épargne 10 %. Mais ça tient compte de plusieurs hypothèses. La première, c'est la continuité. Comme si vous épargniez 10 % annuellement depuis que vous avez commencé à travailler. Si vous avez 32 ans, t'es déjà 10 ans derrière l'objectif. Et donc, le 10 % n'est peut-être pas suffisant pour pas réduire ton niveau de vie. Deuxième point, ton revenu discrétionnaire. Moi, je trouve ça bizarre qu'une personne qui gagne 200 000 par année épargne juste 10 %. Puis qu'une personne qui épargne, qui gagne 40 000 se fasse dire 10 % aussi. La personne qui gagne 200 000 a beaucoup plus de revenus discrétionnaires. Même s'il y a plus d'impôts, la livre de beurre est le même prix. Et donc, si vous gagnez un gros revenu, vous devriez pousser pour plus d'épargne pour avoir des objectifs différents. Et c'est le troisième point. C'est quoi vos objectifs dans la vie? Si vous voulez être propriétaire, regardez le prix des maisons. Quand t'es dans ta vingtaine, c'est pas du 10 % faut te mettre de côté, c'est du 20-25 parce que sinon, tu pourras pas accumuler une mise de fonds puis mettre ton épargne de côté pour ta retraite non plus. Et il y a aussi une question de période de vie. Disons que, tu sais, quand vous êtes rendu à 55 ans, puis ça fait 30 ans que vous mettez de l'argent de côté, peut-être que vous avez plus besoin de le faire. Ou un autre point, quand vous êtes des parents qui ont le REE d'un bord, ça compte pour l'épargne, t'as la voiture à payer, la maison, les enfants, les activités, c'est une période où tu peux peut-être baisser en bas de 10 pour compenser, par exemple, par des périodes où tu es en haut de 10, donc peut-être dans vingtaine, quand tu n'as pas d'enfant, en profiter pour te dire « Hey, je pourrais peut-être aller comme le REER, 18 ou 20 %, parce que plus tard, je vais être un papa, une maman, puis je vais avoir moins de liquidité. » C'est beau, hein?
C'est très beau, c'est très beau. Ça fait réfléchir, je pense.
Fait que je vais aller m'acheter une voiture électrique quand elle sera usagée, subventionnée et pas chère.
Oui. S'il n'y a pas de subvention, tu vas y penser deux fois.
Je vais y penser deux fois.
OK, salut.
Salut.
7h23. La 15.